Podcast, les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 31, le réseau Barker, donc c'est la deuxième partie. Cannibale, buveur de sang humain et adepte satanique de haut niveau. Dans son deuxième livre, Cannibalism, Blood Drinking and High Adept Satanism, Barker tente une explication de ce qu'est le satanisme. Il a été forcé par des satanistes à la prostitution quand il était enfant et adolescent, pour faire des films pédopornographiques, mais aussi pour corrompre divers personnages utiles au réseau. Ensuite, les satanistes qu'il fréquentait voulaient l'initier, mais il a pris ses distances et a fini par fuir. Dans ce livre, Barker décrit de l'intérieur le fonctionnement des satanistes qu'il a connus, leurs méthodes et leurs objectifs. Ce qu'il dit dans ce domaine correspond à ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent, mais il y a une ou deux thématiques que Barker aborde et qu'il m'est impossible de suivre, comme les extraterrestres ou les démons. Le résumé de qui suit insiste sur les aspects les plus factuels du livre. Une définition du satanisme. Il considère qu'il y a différentes formes de satanisme, mais que leur motivation est toujours la même, imposer un pouvoir mondial. Il considère, bien qu'il y ait de petites différences purement esthétiques, que sataniste et luciférien, c'est la même chose. Il explique ainsi différentes formes de satanisme. Des athées qui rejettent le christianisme en structurant ce rejet par des rituels. De vrais païens qui veulent retourner à des religions pré-chrétiennes. Ceux qui s'identifient au mystère de l'Égypte, de la Grèce et de la Rome ancienne. Des lucifériens qui sont des francs-maçons de haut niveau et se réclament davantage de la franc-maçonnerie que du satanisme. Les gnostiques qui voient Lucifer comme l'apporteur de lumière. Les satanistes entre guillemets socialistes comme la Fabian Society qui veulent imposer un socialisme mondial décrit par H.G. Wells dans New World Order. Des scientifiques rationalistes qui voient le satanisme comme un moyen de rejeter les superstitions et les autres religions. Ils sont souvent proches des athées. Pour Barker, le mouvement transhumaniste qui rêve de remplacer l'homme par des robots plonge ses racines dans des délires satanistes. Je cite Julian Huxley, qui a été le premier fondateur du mouvement transhumaniste, était un membre de la société dite luciférienne, écrit Barker. Il était également donc beaucoup dans les mouvements eugénistes. Ceux qui sont à 100% versés dans l'occulte, comme ceux qui croient en la théosophie et à l'ordre de la Golden Dawn. En effet, on m'a déjà beaucoup parlé de ces groupes en me disant d'y faire très attention car ils sont en force. Ces mouvements utilisent des sociétés, des ONG écrans et tentent de peser au maximum sur les orientations des institutions internationales, l'ONU en premier lieu. D'autres veulent regrouper toutes les religions du monde en une seule. Cela semble être l'objectif de la Lucis Trust, qui était à l'origine appelée Lucifer Publication et qui est maintenant associée aux Nations Unies. Ces groupes aussi, en effet, sont présents dans les instances de l'ONU. Et enfin, il y a ceux qui vont dans le satanisme pour obtenir des pouvoirs magiques. C'est ainsi que Aleister Crowley écrivait le mot magique, pour manipuler les autres. Les adeptes de Crowley étaient dans cette veine. Je cite « La plupart des satanistes ne pratiquent pas le cannibalisme, ne boivent pas de sang et ne pratiquent pas le sexe déviant. Mais la minorité qui s'adonne à ces pratiques est très significative et influente sur le mouvement international. Les satanistes les plus puissants financièrement dans le monde sont de très riches aristocrates qui contrôlent de vastes ressources. Ils maintiennent leur pouvoir à l'aide de criminels accomplis, et le plus dangereux de ces criminels sont des satanistes qui pratiquent le cannibalisme et boivent du sang. » Fin de citation. Écrit Barker, qui ajoute qu'au-dessus encore de ces plutocrates, une élite d'amis qui tiennent le pouvoir, et leur bras droit, il y a ce qu'il appelle les hauts adeptes satanistes, des occultistes qui manipulent les gens grâce à des pouvoirs qu'ils auraient, et qui prendraient ainsi possession du monde. Les mystères du Sphinx, éducation sexuelle. Dans son autobiographie, Barker a raconté un épisode où le chef du groupe satanique, le baron, l'a amené chez deux frangines illuminati lesbiennes et pédophiles. Elles avaient une impressionnante bibliothèque et pensaient qu'il leur fallait découvrir les mystères du Sphinx pour accéder au pouvoir mondial. Leurs parents, écrit Barker, étaient frères et sœurs, mariés et satanistes. Apparemment, ils croyaient fermement au délire d'un disciple sataniste de Freud, je cite, « Ce psychiatre sataniste a projeté que dans le futur, tout le monde aura une promiscuité sexuelle, parce que la répression sexuelle était la base de toutes les névroses. Par conséquent, le gouvernement exigera une promiscuité sexuelle de tous ses citoyens afin de guérir la société de la névrose. En outre, cet auteur satanique a fait l'hypothèse que dans le futur, tout le monde sera tenu par la loi d'être homosexuel. Ce serait une méthode de prévention de la surpopulation. Il a prédit que pour accepter cette orientation sexuelle contre nature, les gens devraient être continuellement socialisés dès la naissance et tout au long de leur enfance. Alors l'éducation pédophile des enfants deviendrait alors la norme. » Écrit Barker. Voilà qui est intéressant parce qu'en filigrane, l'objectif de l'éducation sexuelle, Made in ONU Kinsey, est bien celui-là. Puis les parents, devenus homos, se sont séparés, prenant chacune des deux filles avec eux et coupant le contact. Chacun des parents, cependant, leur a fait expérimenter dès l'enfance les relations pédophiles homosexuelles. Puis une fois adultes, elles se sont rencontrées et se sont mises ensemble. À ce moment, leurs parents les ont initiées dans le satanisme. Ensuite, selon Barker, elles auraient été recrutées par les Illuminati. Bref, lors de cette visite chez les deux sœurs, il était temps de passer à table. Barker explique que sur la table, le plat était constitué de diverses viandes, porc, poulet, dinde, bœuf, mouton et viande humaine, le tout avec des épices et un mélange de ketchup et de sang humain. Les deux sœurs ont alors expliqué d'où venait cette viande de bétail humain, je cite. Elles expliquent qu'une fois par an, elles récoltent une famille de travailleurs migrants. Pendant l'été, les routes du Midwest étaient fréquentées par des voitures et des camions avec des familles de pauvres travailleurs, parfois sans papier. Fin de citation. Les deux frangines envoyaient les sbires, des femmes en apparence très bien, très chrétiennes, avec des croix autour du cou et des bibles dans les mains, qui venaient frapper à la porte de ces familles, pauvres mais en bonne santé, et leur amenaient à manger. Évidemment, la nourriture était bourrée de drogue. Quand toute la famille s'était endormie, tout le monde était ramené en vanne. Après une journée, on leur donnait énormément d'eau. Puis, quand toutes les drogues étaient parties, on les tuait. Mais le but était de les découper alors qu'ils étaient encore vivants, devant le reste de la famille. Une famille leur suffit pour un an, car elle consomme de la viande de bétail humain avec modération, mais qu'après d'après ce que décrit Barker, avec une grande délectation. Une partie du sang était récupérée à des fins culinaires. À ce sujet, la description de Barker n'est pas sans rappeler la soirée Devil's Heaven de Lady Gaga et Marina Abramovic, dont nous sommes censés considérer qu'il ne s'agit que d'une performance artistique à l'occasion d'une banale soirée VIP. Je ne dis pas que les invités ont mangé de la viande humaine et bu du sang à cette soirée, mais la symbolique n'est certes pas innocente. Les deux sœurs expliquent aussi à Barker que le sphinx est le symbole parfait du cannibalisme aristocratique, des lucifériens. En effet, il a un corps de lion qui mange les humains et une tête d'humain. Barker dit que partout où on voit de grands sphinx, c'est qu'il y a des satanistes. L'objectif de cette visite pour le baron était de repérer l'emplacement de leur bibliothèque, bien cachée dans les sous-sols. Mais il craignait qu'elles ne les y enferment, comme elles avaient l'habitude de le faire. Apparemment, quand le baron a mentionné la Dark Mother, la mère noire, qui serait leur supérieure, cela leur a fait suffisamment peur pour éviter de se faire enfermer. Elles avaient de nombreux livres sur le cannibalisme, le satanisme, la pédophilie, le sexe et pas mal de films et de photos pédopornographiques à vomir, dont l'une le montrait allongé sur un autel. Certaines photos valaient plusieurs milliers de dollars, explique Barker. Par exemple, une photo en noir et blanc montrant une fillette nue qui est devenue la femme d'un sénateur qui valait une petite fortune. Le baron a expliqué à Kerf que les deux frangines étaient en délicatesse avec la Dark Mother, leur supérieure Illuminati, car elle ne rapportait pas assez d'argent et ne rendait pas assez de services au groupe. Du coup, elle a envoyé le baron et ses hommes leur piquer leurs livres, leurs biens et leurs esclaves. L'ONU, instrument du lobbying international. Pour se racheter, la Dark Mother leur a demandé de rejoindre un think tank qui travaillait pour l'ONU. Je cite « On m'a dit que beaucoup des élites des Nations Unies sont des cannibales pratiquants qui gardent des esclaves, cela correspondait bien aux deux sœurs », écrit Barker. Ce think tank était un groupe d'intellectuels qui font des plans pour la prise de pouvoir mondial par l'ONU. Ils faisaient aussi des plans pour créer une nouvelle civilisation pour la race humaine une fois cette prise de pouvoir effective. Fin de citation. Barker explique que tous les gens de l'ONU et des think tanks autour ne sont pas des pédophiles cannibales et lucifériens, mais selon lui, sont tous des tarés. Je cite « Si vous ne me croyez pas, lisez l'agenda 21 de l'ONU. Si l'agenda 21 fonctionne, cela prendrait tout le pouvoir des gouvernements nationaux et locaux afin que les plutocrates qui tiennent l'ONU aient le contrôle total des ressources partout dans le monde. » Fin de citation. Ce texte est effectivement incroyable. Il vise à organiser toute la société et à la contrôler et à tout planifier, y compris sur le plan démocratique, et cela au nom du développement durable. Ne lisez pas à ce sujet les articles des médias commerciaux. Ils ont juste retapé les communiqués de presse et sont loin de la réalité de ces textes. Mais laissons poursuivre Barker, je cite. Toute la nourriture, toute l'eau, les animaux et les humains seront contrôlés par les élites globalistes. Tout le monde sera contraint de vivre dans des zones de peuplement, tout le monde sera tracé et contrôlé. Des réserves en fait. Le pire c'est que c'est écrit noir sur blanc dans les textes officiels. Mais nos élites font comme si cela n'y était pas, et comme si l'agenda 21 était formidable pour l'humanité. On comprend mieux comment des horreurs pareilles sortent en permanence des crânes d'œufs de l'ONU quand on sait qui sont ces gens et ce qu'ils défendent. L'objectif est de mettre tout ce machin en place d'ici 2050, donc demain. Je cite, la plupart des gens ne comprennent pas que le bâtiment des Nations Unies entier est un temple satanique. Il y a même dans une petite pièce appelée la Meditation Room, la salle de méditation, un hôtel satanique. Mais on ne la vend pas comme cela sur le site de l'ONU. On dit qu'il s'agit d'une salle ouverte à toutes les religions. La peinture abstraite au fond montre une faucille qui représenterait le sacrifice humain de la planète Saturne. 10 sièges qui représenteraient les 10 rois satanistes quand l'ONU aura pris le pouvoir font face à l'hôtel. Sur le cannibalisme. Au sujet du cannibalisme, Barker explique que ce que lui a raconté le baron. Les satanistes cannibales des villes de la côte Est sont nombreux et bien organisés. Des entreprises cachées derrière des sociétés écrans vendraient de la viande humaine à de qualité à des prix élevés, grâce au flot incessant de travailleurs clandestins et leurs enfants. Les otages sont ensuite gardés et engraissés dans des maisons secrètes, puis des ruches cannibales les choisissent sur photo et avec quelques infos en plus. Parfois, certains sont torturés pour que le sang se remplisse d'adrénaline, ce qui est très recherché, semble-t-il. Ce genre de pratique serait commune aussi bien aux chrétiens qu'aux juifs. La viande humaine sera ensuite préparée et conditionnée comme la viande animale. Bob, qui était en quelque sorte l'éducateur de Barker dans le satanisme, lui aurait encore précisé que des politiciens, aussi bien démocrates que républicains, mettaient de la viande humaine dans les plats servis à leur dîner des levées de fond. Les lucifériens le savent, pas les autres. Bon appétit! Barker explique que le baron n'appréciait pas la forme de cannibalisme pratiquée par les deux sœurs. Il préférait le cannibalisme philosophique pratiqué par les élites satanistes. Barker évoque aussi des films amateurs qu'il a vus, faits par des Illuminati de haut rang qui s'adonnaient au cannibalisme. La qualité des films était très bonne, selon Barker. Certains de ces films avaient été tournés dans la villa d'un des membres du comité, c'est-à-dire le haut de la hiérarchie sataniste, un autre chez un très riche patron d'entreprise américaine. Les films étaient tournés dans les années 70 par Bob, qui avait été missionné pour filmer les pratiques satanistes à travers le monde. Bien qu'habitué à filmer de la pédopornographie, il a été choqué par certains rituels de sacrifice et de cannibalisme. Il a fait des copies qu'il a montrées à des lucifériens qui ne pratiquaient pas cela et qui aussi été choqués. L'un des films en noir et blanc montrait deux vieilles dames, souriantes, dans une belle et grande cuisine, en train d'égorger un bébé de quelques mois, de récupérer le sang et les organes, tout en expliquant gentiment ce qu'elle faisait, comme une émission culinaire classique. Puis elle recommence avec une petite fille noire. Elle garde la nappe pleine de sang en souvenir avant de passer à l'étape de la préparation. Enfin, le film montre le repas avec tous les convives en tenue de soirée, se délectant des plats. Deux des convives, un jeune couple, ont été installés dans l'axe de la caméra au bout de la table. L'homme demande pourquoi ils sont filmés et on lui répond qu'il est son nouvel employé et ami et qu'il voulait filmer cet événement spécial pour célébrer leur amitié. On leur explique qu'ils vont avoir un plat spécial avec un porc spécial, très rare et délicieux. Au cours du repas, les invités plaisantent au sujet de la viande sans que le couple n'y comprenne rien. On explique à Doug qu'on comptait vraisemblablement le faire monter dans la hiérarchie de la boîte, qu'il devait oublier la morale, considérer le public comme du bétail. Je cite, je ne veux pas que tu sois un leader d'hommes, lui dit son hôte, je veux que tu sois un gardien de bétail. Tu es un aristocrate maintenant, tu es un des nôtres, tu dois penser différemment à leur sujet. Fin de citation. Tout à la fin, on leur montre deux plats sous cloche. En enlevant la cloche, ce sont les têtes des bébés qu'ils voient. La femme tombe dans les pommes, le gars demande si ce sont des têtes de poupées, tout le monde rit gaiement, puis il comprend ce qu'il vient de manger et s'évanouit à son tour. Puis il se relève et rejoint le délire. En fait, selon Barker, les deux avaient déjà rejoint le satanisme, c'était seulement la première fois qu'ils mangeaient des êtres humains. Ce leader Illuminati avait pour délire numéro 1 qu'il voyait comme l'acte démoniaque suprême de faire manger par une mère son propre nouveau-né. Cette scène-là également a été filmée dans la même pièce avec le même angle que le film précédent, mais les convives semblaient un petit peu plus sombres à Kerf. Le scénario a été le même, jusqu'au plat avec la tête de l'enfant qu'ils ont montré à la mère, mais elle a été tuée ensuite. Un troisième film décrit par Barker est simplement insoutenable, je résume. Une femme attachée à une table est en même temps violée et mangée par des dingues procédant de manière chirurgicale. Parfois, il brûlait ses blessures pour éviter qu'elle ne meure trop vite, raconte Barker, qui décrit une scène d'un sadisme absolu que j'aurais du mal à retranscrire ici. Ce film a été tourné par Bob, qui le lui a montré, ainsi que quelques autres, en revenant de sa tournée européenne. Bob lui a expliqué que cette femme avait été retenue et torturée pendant des semaines avant cette mise à mort filmée. Selon Bob, ces films ne servaient pas qu'au sadisme sexuel. Il s'agissait aussi d'un entraînement du chef Illuminati sur ses employés pour les désensibiliser. Il les forçait ainsi à être sans foi ni loi dans leur pratique professionnelle au quotidien, à traiter des gens comme des objets. Suite à cette tournée de Bob, Bob a été passablement écœuré et il a en partie voulu quitter ce système, raconte Barker. Pendant une dizaine d'années, Bob a fait des copies de films qu'il devait tourner. Son but était de les montrer à des satanistes moins criminels pour les choquer et les retourner, afin de changer le système luciférien de l'intérieur. Finalement, son manège a été repéré et Bob a été liquidé par le réseau. Selon Barker, il est impossible de changer quoi que ce soit au système depuis l'intérieur, car le haut de la hiérarchie ne laissera jamais tomber ni son pouvoir, ni ses plans. L'initiation. Quand le baron voulait initier quelqu'un, il organisait une cérémonie dans la nuit du 7 au 8 septembre. Il n'y a qu'une date par an, d'après Barker. La cérémonie consistait à des rituels de sacrifice et des orgies sexuelles, dont le clou du spectacle était la copulation d'une femme et d'un bouc auquel on avait mis une couronne et une cape. Apparemment, le bouc représente Satan et est carrément vénéré pendant la cérémonie avant d'être sacrifié et cuisiné. Après, ils boivent le sang et passent à l'orgie, et après l'orgie, ils mangent la viande. Cette cérémonie est appelée le mariage de la bête. Au cours de cette cérémonie, qui a lieu à 13 ans pour les garçons, leurs diverses personnalités sont réunies. Barker écrit qu'on lui a expliqué que cette idée de fractionner la personnalité des enfants était venue en Europe quand, pendant le Moyen-Âge, les satanistes ont dû dissimuler leurs croyances. Les enfants étant trop jeunes pour la duplicité, on les traumatisait pour fractionner leur personnalité avec un côté de bon chrétien qui passait bien en société et un côté sataniste caché. Lors de la cérémonie des 13 ans, le garçon devait avoir sa première éjaculation et sacrifier un animal. À la fin, la personnalité chrétienne était tuée et le garçon savait qu'il était 100% sataniste. Pédopornographie. D'après Barker, le baron tirait pas mal d'argent de la vente de pédopornographie dont la clientèle était constituée par ceux que Barker appelle les aristocrates lucifériens. Depuis ses 7 ou 8 ans, Kerf avait été forcé par le baron de tourner dans de nombreux films pédopornos, souvent filmés par Bob et qui étaient distribués partout dans le monde. Mais certains des films dans lesquels il avait été obligé de jouer, entre guillemets, avaient un autre objectif, faire chanter des politiques, des patrons ou hauts cadres d'entreprise. Cela était très utile au baron pour ses divers business. Le type était invité à une soirée, il était saoul et défoncé, et on lui propose des prostituées, puis il se retrouve dans une chambre avec un ou une mineure. Un jour, le baron a fait un film lors d'une pseudo-cérémonie de mariage entre Kerf et une autre ado de 13 ans, Martin, organisée essentiellement pour l'aspect piquant, entre guillemets, du scénario. On a demandé aux gamins de se violer mutuellement et de tuer leur personnalité chrétienne. On leur a aussi dit qu'une fois adultes, ils seront en couple et qu'ils devraient promouvoir les droits des homosexuels car il y avait trop d'enfants dans le monde et que promouvoir l'homosexualité était un moyen de contrôler la croissance de la population. Barker explique que Martin était littéralement programmé par ses parents pour devenir gay, même s'il ne l'était pas à l'origine, et il pense que Martin était pris dans un projet expérimental de contrôle de la population. Ils se sont revus à 17 ans et Martin s'est suicidé peu après. Parmi les films que Bob lui a montrés, Barker cite celui dans lequel il a vu une fillette égorgée et saignée lors d'un rituel. Ensuite, tout le monde boit son sang en festoyant. Barker écrit que la petite fille était souriante au tout début, et elle ne se doutait pas de ce qu'il allait se passer. Ces films auraient deux objectifs, le côté soi-disant « magique », comme l'écrivait Crowley, et la manipulation psychologique du groupe. Les amateurs de sang. Ce qu'explique Barker à ce sujet peut paraître invraisemblable. Mais j'ai déjà entendu cela. J'ai pu parler avec un homme qui avait intégré plusieurs loges liées au satanisme et ses dérivés, généralement intégrées à la franc-maçonnerie, de plus ou moins près. À l'époque, je débarquais complètement en ce qui concerne ce type de croyance. Pour moi, tout cela n'était qu'un sombre délire et je n'avais pas le temps de m'en occuper. Mais il m'avait expliqué le fonctionnement de ces loges, leur rite d'initiation, avec les sacrifices et cette manie de boire du sang. En le regardant, je me demandais s'il se fichait de moi sur le moment. Tout cela pour dire que ces pratiques sont connues, sauf par le grand public. Barker explique bien pourquoi le fait de boire du sang est si important pour tous ces dingues. Il dit que c'est un phénomène lié à l'absence de pouvoir. Je cite « Les gens qu'on a amenés à se sentir impuissants dans leur vie peuvent être attirés par le fait de boire du sang comme une manière de retrouver un sentiment de pouvoir. » Fin de citation. Il explique que ceux qui font cela ont été abusés depuis leur naissance. Ils recherchent donc de la force supplémentaire, d'où la recherche de sang adrénalisé. Il écrit que quand il était jeune, certains ont tenté de se rebeller de l'intérieur, effrayés par la vague de dépendance au sang bourré d'adrénaline dans le milieu Illuminati. Selon lui, il s'agit d'une dépendance similaire à celle liée aux drogues dures. Il en a eu en thérapie et il dit que, je cite, « Par exemple, il devient assez vite parfaitement clair pour vous que votre client vous regarde de la manière dont un loup regarderait un agneau qu'il voudrait tuer et manger. » Fin de citation. Ambiance, ambiance. Il y en a qui boivent du sang parce que ça leur paraît hype, dans le vent, et cela reste occasionnel. Mais il y en a qui le font dans un cadre occulte. Cette consommation peut rester modérée et selon Barker, ils ne tuent pas pour obtenir ce sang, préférant utiliser leur sang ou du sang provenant de diverses sources médicales. Et de citer en exemple le nouvel mode du prélèvement de sang dans le cordon ombilical des bébés. En buvant leur sang, en mangeant ce qu'ils appellent le bétail humain, ils se sentent supérieurs. Toutefois, selon Barker, la plupart des aristocrates satanistes ne s'adonnent pas à ces pratiques, tout en tolérant que d'autres le fassent. Certains, en revanche, y vont franchement, au point de se faire des transfusions régulièrement avec du sang de jeunes en bonne santé ayant un groupe sanguin compatible. Ceux qui pratiquent ces rituels de sacrifice d'enfants croient qu'ils absorbent ainsi la force vitale des enfants, et la sodomie est utilisée comme un canal, m'a-t-on dit, et gagne en jeunesse. Au fil du temps, un certain nombre de ces adeptes du sang deviennent accros et en prennent des quantités de plus en plus importantes. Ils ont des crises de manque et cherchent à se procurer le produit miracle. Barker, qui a eu l'occasion d'en soigner quelques-uns quand il a été thérapeute, a inventorié essentiellement trois types de satanistes accros au sang. Ceux qui persuadent les gens de leur laisser boire leur sang. Le problème, c'est qu'ils commencent par demander une petite quantité et puis ça ne s'arrête plus car ils ont un comportement addictif. Ceux qui enlèvent des victimes, les gardent vivants et leur prennent leur sang par la force. Ce sont eux qui torturent leurs victimes avant de prendre leur sang. Ceux qui tuent dans le but de récolter le sang des victimes. Certains sont des professionnels qui fournissent du sang aux autres. Barker rappelle des histoires de Dracula, Elisabeth Bathory, mais aussi d'Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan, qui a proposé de la viande humaine, donnée par un médecin qui assistait à ses discours à ses adeptes. Ceux qui mangent de la viande adrénalisée, qu'elle soit humaine ou animale, seraient plus agressifs et boire du sang humain ferait le même effet, comme une sensation de puissance. Selon Barker, parmi les 1% les plus riches des USA, tous ne sont pas lucifériens, mais les lucifériens luttent pour l'intérêt de ces 1%. Dans les lucifériens, tous ne croient pas fondamentalement au satanisme, mais y vont par intérêt. D'autres sont des dilettantes, d'autres sont des convaincus. Parmi ceux-là, seulement une petite minorité, d'après Barker, boit du sang. Mais malgré tout, cela fait quand même pas mal d'accrocs au sang frais, de préférence celui des enfants et avec de l'adrénaline, c'est-à-dire quand les victimes sont tuées après avoir été torturées. Et, je cite, c'est un très gros problème, souligne sobrement Barker. Le problème vient essentiellement du fait que les Illuminati cherchent à rester discrets jusqu'à leur prise de pouvoir complète, et que les débordements des accros à la recherche de victimes font un peu tache. Cela met la puce à l'oreille aux braves gens, qui pourraient bien finir par se poser des questions. Je cite, je sais que les Illuminati de haut rang étaient préoccupés du fait que le phénomène de la consommation de sang était hors de contrôle. Beaucoup de gens et beaucoup d'enfants ont été enlevés pour cela, et il y a tellement de gens qui disparaissent que ça met le public en alerte. Fin de citation. Du coup, un programme de désintoxication a été mis en place par les lucifériens pour leurs adeptes devenus toxicaux du sang. On m'a aussi fait comprendre à plusieurs reprises que les besoins en sang des satanistes augmentent et que pour s'en procurer, ils doivent massacrer à tour de bras. La vague de migration impressionnante depuis 3 ans fait qu'ils ont désormais sous la main un flot de matières premières incessant, mais les disparitions d'adultes comme d'enfants atteignent chaque année des chiffres impressionnants. MKUltra. On a déjà parlé de ce programme de la CIA, dont le but était de parvenir au contrôle mental total des individus et des populations. Je cite, selon Barker, le programme de contrôle mental MKUltra, organisé par la CIA, était réellement une expérience Illuminati. Le but réel de MKUltra était de prendre le satanisme traditionnel et de le transformer en une méthode scientifique. C'est le contrôle mental basé sur le trauma. Le but ultime des grands adeptes du satanisme est la destruction complète de la race humaine et de l'écosystème naturel de la Terre, avertit Barker. Puis j'ai beaucoup de mal à le suivre. Il dit qu'ils se fichent de tout détruire car ils s'identifient eux-mêmes aux aliens des autres mondes qui sont sous les règles de Satan. L'objectif serait de remplacer l'humanité par une nouvelle espèce d'alien. Fin de citation. Le plan, explique Barker, serait de créer une menace importante puis d'orienter les gens vers des endroits dont on leur dira qu'ils sont sûrs pour ensuite les exterminer à leur arrivée. Cela leur évitera d'avoir à faire le tour des campagnes. Il explique que la Federal Emergency Management Agency, l'Agence fédérale de gestion des urgences, la FEMA, fait comme chez nous, où la moitié des enfants migrants isolés disparaissent dans les 48 heures après avoir été fichés. En Europe, on parle de 10 000 enfants dont on a totalement perdu la trace, quand même. En Europe, on construit aussi des camps. Barker explique que la FEMA a aussi construit des camps dans lesquels elle met des enfants migrants dont on ignore le devenir. Entre octobre 2013 et juin 2014, selon Obama, plus de 47 000 mineurs non accompagnés ont franchi la frontière, le double de l'année précédente. Si bien que 1,4 milliard de dollars a été débloqué pour les parquer en attendant de trouver leurs parents. Selon Barker, le gouvernement états-unien va carrément jusque dans leur pays pour inciter ces mineurs à partir vers les États-Unis. Ceci dit, officiellement, la FEMA n'a pas de camp et il ne s'agit que d'une théorie conspirationniste. Barker évoque aussi un programme de dépopulation qui sera en cours et qui finalement est contenu en filigrane dans l'agenda 21, dont on a parlé plus haut et que j'incite tout le monde à lire. L'objectif est de réduire la population dans des proportions qui la rendent contrôlable et qui évitent toute population superflue, c'est-à-dire inutile à ces soi-disant élites. Parallèlement à cette dépopulation, Barker explique que les gouvernements sont aujourd'hui en train de travailler à la destruction totale de la classe moyenne. Force est de constater que même si l'OCDE et l'FMI ont critiqué récemment ces politiques de l'offre, ou d'austérité, qu'ils ont eux-mêmes imposées au monde entier, la politique économique que poursuit Macron, de même que Theresa May, Rajoy en Espagne, Michel, Merkel et d'autres, c'est bien d'enrichir les riches, surtout s'ils spéculent, et d'appauvrir la classe moyenne. Quant aux plus précaires, je n'en parle même pas. Ces gens et ces familles sont en mode survie dès le 5 du mois. Tout cela grâce aux mensonges honorables, explique Barker. En gros, vous connaissez tous le mensonge honorable. C'est quand Macron vous dit qu'il veut redresser le pays, qu'il pense à la souffrance des pauvres, et quand on vous dit que l'Europe, c'est pour la paix. Et pendant qu'on vous berce d'énormités, on ne dit pas ce qu'on fait vraiment, quels choix politiques on fait réellement, quels intérêts on défend. Il y a un côté hypnotique à tout cela, et toutes ces bonnes paroles creuses, mais qui ont le pouvoir d'endormir quand elles sont répétées à longueur de temps de cerveau disponible. Transhumanisme et mutilation chirurgicale. Ce sujet est assez étonnant en fait, mais à lire les déclarations des droits sexuels de l'IPPF, l'International Planned Parenthood Federation, donc le Planning Familial International, par exemple, on comprend qu'un objectif mondial est de faciliter l'accès de tout le monde, mais en particulier des enfants, à la chirurgie esthétique. En effet, l'IPPF, le Planning Familial International, donc nous explique page 20 dans l'article 1, je cite, « Le droit à l'égalité, à l'égale protection devant la loi, à n'être soumis à aucune discrimination sur la base de son sexe, sa sexualité ou son genre, et que toute personne doit pouvoir bénéficier de la capacité légale et des mêmes opportunités d'exercer ladite capacité, et de droits égaux à signer des contrats et gérer des biens, et doit être traité avec égalité dans toutes les étapes de la procédure devant un tribunal, et ce, en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. » Fin de citation. Je ne vais pas épiloguer ici, et je vous envoie à des articles, justement, notamment d'Ariane Bilran, où, si on considère les capacités évolutives de l'enfant, ça veut plus ou moins dire qu'en fait, on va essayer de prendre les enfants pour des adultes, et si on les prend pour des adultes, alors ils peuvent tout à fait consentir à des relations sexuelles. Barker explique que les satanistes fanatiques considèrent les êtres humains comme de la matière première, et ils cherchent à utiliser la mutilation chirurgicale comme une forme de contrôle social. Barker explique avoir vu plusieurs films dans lesquels des satanistes opèrent des mutilations chirurgicales sur des victimes, prenant parfois le temps de les torturer pendant plusieurs semaines. Des gens sont découpés morceau par morceau alors qu'ils sont encore en vie, parfois même sans aucune anesthésie. L'idée, explique Barker, est que quelqu'un qui a été mutilé physiquement éprouve à vie un sentiment d'impuissance. Ce type de mutilation pourrait se faire à une échelle industrielle, précise Barker, qui dit avoir vu des photos d'une machine capable d'enlever un bras à quelqu'un de manière complètement automatisée. Quant au transhumanisme, il s'agit d'une école de pensée et de pratique dont le but est de perfectionner l'humain grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique. Comme l'explique un site qui s'inscrit dans ce mouvement, je cite, les transhumanistes cherchent à développer des possibilités techniques afin que les gens vivent plus longtemps et en santé tout en augmentant leur capacité intellectuelle, physique et émotionnelle. Fin de citation. On n'est pas loin des théories eugénistes, soit dit en passant. Barker dit que la notion de transhumanisme est une sorte d'introduction à celle de surhumanisme, ou sub-humanisme en anglais, et il affirme que les Illuminati sont très favorables à ce mouvement qui va dans leur intérêt. De fait, s'ils n'en sont peut-être pas à l'origine, ils y sont forcément partie prenante. Le premier à avoir parlé de transhumanisme est le biologiste anglais Sir Julian Huxley, et c'était en 1957, explique Barker. Je cite, il a été à la tête de la British Eugenics Society et de l'UNESCO. Selon Huxley, l'objectif de l'UNESCO est d'aider à l'émergence d'une unique culture mondiale. Sans aucun doute, Huxley était un membre des Illuminati, précise l'auteur. Fin de citation. Alors juste, on peut faire une petite digression sur Julian Huxley. Il a aussi créé le WWF. Et effectivement, il était très pro-eugéniste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, l'expérience nazie, qui se réclamait aussi de l'eugéniste, a un peu coulé l'idée. Et du coup, suite à la Deuxième Guerre, il a clairement dit qu'en fait, il parlait maintenant de transhumanisme au lieu d'eugénisme parce que c'était plus vendeur et que ça permettait de repartir sur ces thèses-là sans se couler vis-à-vis de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi signaler que donc c'était son frère, il me semble, Aldous Huxley, de sa même famille, qui a écrit « Le meilleur des mondes », où en fait, c'est pas vraiment de la science-fiction, en fait, c'est juste une description de ce qu'imaginent ces élites et de ce qu'ils aimeraient atteindre comme monde, quoi. donc notamment par le contrôle de la reproduction, au sens non pas simplement de la pilule, de l'avortement, etc., mais plutôt du fait que vous auriez plus le droit de faire des enfants de manière naturelle, et ces enfants seraient faits uniquement, il n'y aurait que des bébés éprouvettes. Voilà, c'est l'État qui aurait le monopole de la reproduction humaine. Donc là, effectivement, on se projette dans un monde, mais qui paraît pas si éloigné. Il n'y a plus qu'à faire des utérus artificiels qui marchent, et il me semble que voilà, on en est plus très loin. Reprenons. Barker explique que les Illuminati ont été créés par Adam Weishaupt en 1776, ce qui n'est plus une théorie du complot. Puis le truc a été mis en sommeil avant d'être remis en route par les Rothschild. Leur premier objectif, toujours selon Barker, était d'infiltrer la franc-maçonnerie. Au fil du temps, c'est aussi ce que l'on m'a expliqué. Dans la franc-maçonnerie, il y a des loges parallèles, des loges dans les loges, et au final, il est impossible, même pour les adeptes, de savoir qui fait quoi et dans quelle loge, dès lors qu'il y a une tentative de dissimulation. Certaines de ces loges ont des pratiques occultes ou tentent de le faire, et certaines partent complètement en vrille avec des orgies, des rituels sexuels, des prises de drogue et parfois des meurtres. Il y a aussi des ponts entre les loges franc-maçonnes et des groupes qui s'affichent satanistes, comme l'Auto, l'Ordo Templi Orientis. Je vous renvoie à un podcast consacré particulièrement à ce réseau. Et à d'autres qui ne l'affichent pas mais sont bien dedans. Crowley lui-même avait été propulsé dans l'auto grâce à son appartenance à la franc-maçonnerie. Le livre de Barker, enfin les deux livres, et il en a fait quelques autres, sont assez touffus et tout ne figure pas dans ce résumé. Mais il nous met sur la piste. Je me rappelle de ce que me disait cet ancien Hergé, qui avait été dans certaines de ces sectes, certains de ces groupuscules plus ou moins proches de la franc-maçonnerie et qui connaissait très bien leurs dérives. Il disait, il faut suivre la piste du sang. Avec ce livre, chacun peut maintenant comprendre ce qu'il disait par là. Le phénomène n'est pas marginal, j'ai pu récolter assez de témoignages pour savoir que ces tarés, même s'ils ne boivent pas tous du sang humain à chaque cérémonie, sont obsédés par les affaires de lignée, par l'ADN, mais aussi par le sexe, y compris avec les enfants, par les tortures, le meurtre, et ne fonctionnent que par le mensonge et la duplicité.